Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Sophie. Donc je suis très heureux d'accueillir dans cette somptueuse librairie une grande amie, une vieille amie comme on dit. C'est plus de 30 ans je pense. Et nous sommes connus à une époque où je travaillais à l'Opéra de Paris, j'étais directeur de l'Opéra Comique. Et je me rappelle que vous m'aviez invité à souper un soir avec Carlo Maria Giulini, qui est un des piliers de votre premier moments musicaux. Donc, rappelez rapidement que vous avez fait des études à la fois de droit, de politique et à Cambridge, en Angleterre, je ne sais pas trop de quoi, mais...
D'anglais.
Ça va sans dire. Et que vous avez participé assez vite à la grande aventure de l'Express en participant donc à la création des cahiers artistiques, enfin culturels.
Oui, c'est ça, les grands entretiens de la fin du journal.
Voilà, donc il y avait des grands entretiens, donc vous avez fait de très nombreux entretiens. Vous étiez particulièrement passionné par la musique, donc une bonne partie de ces entretiens sont musicaux. Et c'est donc une partie de ces entretiens que vous avez retenue pour les publier aujourd'hui, donc dans deux volumes. Un premier volume plutôt consacré aux chefs d'orchestre et aux directeurs d'opéra, et un deuxième plutôt consacré aux pianistes, aux chanteurs, violonistes, et puis également Étienne Vatelot, donc un grand ami aussi, dont vous pourrez parler tout à l'heure peut-être. Ce que je voudrais d'abord savoir, c'est pourquoi, quels sont les critères qui vous ont fait choisir ces entretiens parmi les quelques centaines que vous avez pu réaliser ?
Il y a naturellement l'attirance personnelle, et puis il y a eu les hasards, les suggestions des attachés de presse, mais les coups de foudre, oui, d'abord.
D'accord.
D'abord, évidemment, par exemple, Giulini. Giulini, c'est évident que j'ai fait le premier entretien que Giulini ait donné à la presse, et vraiment, j'avais une admiration immense pour lui. J'ai fait le premier entretien de Peraya, j'ai fait le premier entretien de Maria Tipo. Donc c'était vraiment des coups de foudre.
Et dans ces moments musicaux, vous avez gardé tous les entretiens musicaux que vous aviez faits ou seulement ceux qui vous ont le plus marqué?
Oui, la plus grande partie. Il manque deux ou trois choses, mais enfin...
Ah d'accord, c'est donc quasi l'intégral.
À peu près. Il manque quelque chose que j'étais désolée d'avoir oublié. C'était un entretien que j'avais fait toujours avec Maria Tipo sur Clementi, puisqu'elle a fait l'intégrale des œuvres de Clementi pour clavier. Elle les a enregistrées en 13 CD. Et elle parle merveilleusement de Clementi, et je l'avais interviewée, et j'avais fait à partir de ce qu'elle disait, j'avais fait un long article dans Diapason, et il devrait figurer là-dedans, et je ne l'ai pas mis, malheureusement.
Donc une grande partie de ces entretiens date d'une certaine époque, en dehors de peut-être le dernier de Nicolas Angelich, qui est récent.
Oui.
Pourquoi lui, tout d'un coup, qui ressort...
Eh bien,
20 ans après, disons presque.
Parce que pour une raison très simple, c'est que lorsque j'ai regardé la liste de ces entretiens, je me suis dit, mais mon Dieu, comme le temps a passé. Plusieurs de ces interprètes sont morts. Beaucoup sont morts. Donc on n'a plus l'occasion de les entendre et... Il faudrait essayer de trouver un interprète de notre époque et pour essayer de réactualiser un petit peu ce volume d'entretien.
D'accord. Et vous avez choisi Nicolas Angelich, pour quelle raison ?
J'ai choisi Angelich parce que j'avais entendu son disque des Variations Goldberg que j'avais énormément aimé, qu'il habitait Paris, ce qui était bien commode pour faire ça en 15 jours. Et qu'ensuite, il a fait toutes ses études à Paris. C'est un élève de Ciccolini, entre autres. Il est passé par le conservatoire de Paris. Et tout Américain qu'il est, il vit en France, et ça n'est pas si fréquent. Et donc la rencontre était très facile et très agréable.
Très bien. Vous êtes même venu le chercher ici à Bordeaux.
Oui, je suis même venue l'entendre ici à Bordeaux. J'ai fait l'entretien, pour ainsi dire, à Bordeaux.
Donc, pour parler d'abord des chefs d'orchestre, j'ai rencontré Giulini chez vous à un petit souper intime où il y avait 4 ou 5 personnes. Et j'ai été évidemment frappé par sa personnalité toute de douceur et d'humilité.
Oui.
Ce qui n'est pas forcément le cas de certains autres chefs que vous avez interviewés par la suite. et j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez eu cette relation aussi proche avec lui, comment elle s'est créée et comment elle s'est poursuivie.
Giulini m'a écrit après cet entretien, mais naturellement, j'ai soumis tous les textes des entretiens avant de les publier, ils étaient soumis à la personne interviewée. Et quand Giulini m'a renvoyé mon entretien, qui avait été fait en italien, il m'a écrit une lettre qui est tellement belle que je l'ai fait encadrer. Et il me disait, en vous lisant, je me suis entendue parler. Et c'est vrai qu'il y a eu entre nous une grande compréhension, presque une complicité, et de là est née une amitié. Et chaque fois que Giulini est venu à Paris, ou chaque fois que j'ai été à Milan, je l'ai rencontré, et il est venu à plusieurs reprises dîner chez moi. Et c'était un homme d'une... Thierry a dit... d'une grande humilité, c'est vrai, et d'une immense noblesse, et d'une très grande rigueur morale. C'était un grand seigneur. Et il nous manque beaucoup.
Il manque beaucoup à tout le monde. Je suis assez intéressé par les points communs des chefs d'orchestre que vous avez interrogés. Et une question que vous avez quasiment posée à tous, ce sont les rapports d'autorité ou les relations qu'il peut y avoir entre un chef d'orchestre et les musiciens d'un orchestre. Est-ce que vous pouvez, à travers ces quelques chefs d'orchestre, est-ce que vous avez trouvé une réponse, une vérité sur cette question qui me préoccupe tous les jours ?
La réponse dépend de chacun, mais là... La plus directe, c'est un autre Italien qui est Riccardo Muti, qui a une personnalité tout à fait, oui, flamboyante est le mot, et qui a une gestique absolument sublime. Je ne dirais pas la même chose d'ailleurs de Giulini. Il n'était pas tellement beau à regarder de dos. Ce qui était étonnant quand on le voyait de l'autre côté, ce qui était quand même rare, mais enfin quelquefois ça arrivait, c'est qu'on avait le sentiment que quand il dirigeait, il priait. C'était un homme extrêmement religieux et je l'ai vu plusieurs fois joindre les mains comme ça. C'était comme une espèce de prière, c'était assez étonnant. Il était adoré de ses musiciens. Parce que très compréhensif, très, très à leur écoute. Il était adoré, Giulini. Muti également, et pour une autre raison, il a une autorité extrême. Et je lui ai dit, mais d'où vient l'autorité ? Et il m'a répondu, gli occhi, en faisant ce geste, les yeux. Et c'est vrai que Muti voit partout, il est partout, il a le regard présent et il a une autre façon de diriger, tout à fait autre. Au lieu de l'autoritarisme de certains chefs, il est très intéressant de le voir, de suivre ses répétitions. Il prend une sorte de patte et il essaye de faire comprendre ceci, cela. Et puis la deuxième répétition, il revient sur autre chose. Mais il n'embête pas les musiciens. Mais évidemment, il se passe quelque chose. Il sait exactement ce qu'il veut. Il l'obtient. Il passe à autre chose. Les répétitions ne s'éternisent pas. Et il est très intéressant de voir la répétition générale du matin, où on dit, mais quelle progression extraordinaire entre ces trois répétitions, et le concert, alors qu'il est magique. Parce que là, il les tient, à la fois il les tient et il les laisse libres. C'est une chose très particulière. L'orchestre a le plaisir de jouer. Moi, j'ai eu vraiment ce sentiment. Il laisse les musiciens libres. Ils ont l'impression d'être à l'aise dans leurs vêtements, dans leur... Ça va. En même temps, une autorité, ça part comme ça.
Donc, c'est une liberté contrôlée.
Oh oui.
Très contrôlée.
Mais
sans avoir l'air de le faire. Vous avez aussi parlé avec Daniel Barenboim, qui a quand même vécu assez longtemps à Paris. Vous l'avez rencontré plusieurs fois, non? Vous l'avez rencontré qu'une
non,
fois?
Je l'ai rencontré à Londres.
Ah, plus.
J'avais été le voir à Londres quand il a pris la direction de l'Orchestre de Paris.
Et comment vous aviez senti son envie de... Parce que c'est le moment où il faisait justement le passage réel de pianiste à chef d'orchestre.
Oui.
Comment vous avez senti cette évolution?
Barenboim est un musicien incomparable il a toute la musique dans la tête, il peut se mettre au piano, jouer ce qu'il veut, il peut diriger ce qu'il veut, c'est un phénomène musical. Mais il a un côté un peu, pour moi, un peu boulimique, et il en a jamais assez, et je pense, enfin, pour moi, je trouve que, enfin, je dirais qu'il en fait un peu trop.
J'ai lu récemment qu'en plus d'être donc directeur général et artistique de l'orchestre de l'Opéra de Berlin, du Staatsoper de Berlin, directeur musical de la Scala de Milan, ce qui sont déjà deux postes quasiment à plein temps, il vient d'accepter d'être directeur du Conservatoire de Madrid.
Oui.
C'est quand même incroyable. C'est une illustration de la boulimie.
Il est boulimique et en même temps, il lit Spinoza, c'est un grand intellectuel, Barenboim. Et puis en même temps, il a l'orchestre qu'il a fondé, israélo-palestinien, il est très investi dans le rapprochement d'Israël et de la Palestine. Enfin, c'est une personnalité exceptionnelle.
Oui.
C'est pas mon musicien préféré, voilà.
On dit quelques mots des directeurs d'opéra. Donc, vous en avez interviewé deux, apparemment. C'est les deux seuls que vous avez rencontrés ou vous en avez rencontré d'autres?
Oui, j'en avais rencontré. J'avais rencontré Mortier aussi.
Et qu'est-ce que vous diriez? Parce que Rolf Lieberman et Massimo Bojanchino, c'est deux personnalités très riches.
Je
les ai connus, j'ai travaillé avec les deux. Je trouve que c'est des personnalités comme on n'en voit plus dans le monde de l'opéra. C'est-à-dire que...
Non.
Rolf Lieberman notamment était, comme vous dites, à un moment il aurait très bien pu être avocat, moi je pense qu'il aurait très bien pu être le patron de chez Renault ou un ministre des Affaires étrangères de n'importe quel président de la République. Donc ce sont des personnalités qui sont quand même d'une richesse exceptionnelle.
Lieberman, l'Opéra de Paris lui doit tout, parce que quand il est arrivé à la tête de l'Opéra de Paris à la demande de Jacques Duhamel, le ministre de la Culture, il a trouvé un opéra en perdition. Et il en a fait une des plus grandes scènes du monde à l'époque, parce qu'il a ouvert le répertoire, il a fait venir les plus grands metteurs en scène. Enfin, ça a été une époque magnifique. L'ère Lieberman a été quelque chose d'inoubliable. Je crois que j'ai un souvenir d'un trou vert, mais enfin, tout était magnifique. Chaque fois, on était transporté, et la distribution, et la mise en scène. C'était une époque extraordinaire. Et oui, et chef d'orchestre. On ne sait pas comment le remercier de ce qu'il a fait.
Et Massimo?
Massimo c'était un ami, et il est resté peu, puisqu'il est devenu, maire de Florence. Alors, Massimo Bojanchino c'était quelqu'un de très négatif. Mmh. Il était un merveilleux pianiste, et Bon, il se trouvait pas assez bon pour faire une carrière. Enfin, il a un peu touché à tout. Et il estimait qu'il n'avait pas réussi sa vie. Alors, il était un peu blasé. C'était un homme d'un esprit, d'une intelligence, d'une culture. C'était quelqu'un de fascinant, Bojanquino, fascinant. Il est parti assez vite.
Et vous l'avez revu après ?
Oui, je l'ai revu, mais il était très malade.
Bon, vous avez évoqué aussi un metteur en scène, donc Pierluigi Pizzi, qui est beaucoup d'Italien dans vos entretiens.
Alors, Pizzi aussi est un ami, et ça, je l'ai vu beaucoup. Je le vois encore beaucoup. Et lui aussi est un homme de culture. C'est ce que j'apprécie tellement chez eux. Et un homme de goût. Et il a fait de magnifiques spectacles, surtout des spectacles baroques qui étaient... C'était quand même sa période. Et il a même fait La Passion selon Saint-Jean, vous vous souvenez ?
Vous êtes un des premiers qui a mis en scène.
Il a mis en scène et je tremblais parce que je trouvais ça presque un peu sacrilège. Et en fait,
c'était magnifique.
Oui, c'était très évocateur de Piero della Francesca. C'était magnifique. C'était très sobre. C'était un très beau spectacle.
Et il n'habite plus Paris maintenant, je crois.
Il vit à Venise.
Oui. Bien, on dit quelques mots sur le deuxième volume, donc qui est plutôt consacré d'abord aux pianistes, donc beaucoup de pianistes, quelques chanteurs. Celle qui visiblement vous a marqué le plus, c'est Maria Tipo,
oui,
parce qu'il y a trois entretiens, je crois, et c'est une pianiste assez discrète aussi, dont on n'en parle plus beaucoup, bien qu'elle ait fait un début de carrière absolument foudroyant, mais qu'elle a volontairement ralenti pour faire sa vie, pour faire une vie personnelle et s'occuper également d'enseignement et en réduisant son nombre de concerts.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, elle est partie en apothéose.
Oui.
Elle avait quand même joué pendant 60 ans.
Oui, mais elle a ralenti le rythme de ses prestations
avant
quand même.
Enfin, elle avait ralenti le rythme parce que quand elle racontait que quand elle a remporté le concours de Genève à 17 ans et ensuite le deuxième prix, je crois, du concours de Bruxelles où elle a été remarquée par Arthur Rubinstein qui lui vouait une admiration. Elle disait que c'était la plus grande pianiste de ce siècle. Et Rubinstein l'a mise entre les mains de son agent aux États-Unis. Et à 17 ans, elle a commencé une carrière dans les deux hémisphères, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud, ne revenant pratiquement jamais en Italie. Et elle racontait drôlement, je ne connaissais que les aéroports, les salles de concert et les chambres d'hôtel. C'est tout ce que je connaissais de la vie. Et je n'avais devant moi que des nuques d'hommes, parce qu'à l'époque, les femmes ne voyageaient pas beaucoup, et surtout pas seules. Et elle a gardé finalement un souvenir de cauchemar de ces années stakhanovistes, en quelque sorte. Et elle est rentrée, elle a fini par rentrer en Italie, elle s'est mariée, et elle a effectivement ralenti beaucoup le rythme, tout en faisant quelque chose qui est quand même exceptionnel pour une immense artiste. Elle a partagé sa vie entre l'enseignement au Conservatoire de Genève et les concerts. Alors en sélectionnant naturellement beaucoup plus les concerts. Mais je pense que tout de même... Jusqu'à, finalement, c'était, je ne sais plus, elle vient d'avoir 80 ans, donc elle a arrêté à 65 ans, disons, c'est l'âge de la retraite.
Vous la voyez toujours ?
Oui, je la vois. Alors, elle est une grande amie, on se voit beaucoup. Enfin, pas beaucoup moins qu'on ne pourrait, parce que elle vit à Florence et elle ne voyage plus, mais nous nous parlons plusieurs fois par mois.
Il y a un autre pianiste que vous avez interrogé, que moi j'apprécie particulièrement, je trouve que c'est un des plus grands pianistes du XXe siècle, c'est Claudio Arrau.
Ah, Claudio Arrau.
Claudio Arrau qui était aussi quelqu'un d'extrêmement discret.
Oui. Claudio Arrau, c'est, comme vous avez vu, ça n'est pas une interview, c'est un portrait. Parce que Arrau avait... Il n'était pas fait pour le dialogue, il n'était pas fait pour la parole. C'était un être absolument exquis. La première chose qu'il faisait quand il arrivait dans une ville, il allait chercher une pâtisserie et un libraire. Et il lisait en quatre langues, enfin, ou peut-être cinq, je ne sais pas. Enfin, c'était un lecteur dévorant toute la littérature du monde. Et il n'aimait pas beaucoup s'exprimer oralement. On lui posait une question et on voyait qu'il tournait les mains comme ça. Et on avait l'impression qu'il fabriquait la réponse dans sa tête avant de pouvoir la transmettre. Alors, ça avait été une rencontre tout à fait merveilleuse avec lui, mais il était difficile quand même de faire un dialogue. Alors, j'en ai fait un portrait.
Et vous l'avez vu souvent jouer ?
Ah oui, très souvent. Il venait beaucoup à Paris.
Oui, il venait souvent à Paris.
Beaucoup.
C'était un pianiste exceptionnel. C'était
un pianiste, ah oui. Ah oui. Et puis, d'une si profonde culture, enfin, c'était quelqu'un d'exceptionnel.
Et dans les autres pianistes que vous avez interviewés, donc rencontrés, comme Brendel, Ashkenazi, Peraya, Zacharias, qu'est-ce que vous retenez d'eux particulièrement ? Quels sont ceux qui ont été les plus importants pour vous ?
J'ai toujours beaucoup aimé Peraya.
Oui. C'est un élève de Maria Tipo, non ?
Non, pas
non,
du
pas
tout.
Pas du tout ?
Non, 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 non. Il est américain et Il a eu un professeur, je crois, jusqu'à l'âge de 17 ans, quelque chose comme ça. Et il a tout envoyé promener. Et il a fini son éducation musicale tout seul et en faisant de la musique de chambre. Et puis, il s'est présenté au concours de Litz. Il a été lauréat prestigieux du concours de Litz et il a été projeté dans une carrière à laquelle il ne s'attendait absolument pas. Mais c'est quelqu'un de très attachant aussi.
Et il a eu des problèmes de physique par rapport à ses mains, c'est ça ?
C'est pour ça, le deuxième entretien, c'est après, il a été opéré de la main, il a eu des problèmes de main et je crois qu'il n'a jamais retrouvé tout à fait sa...
Sa virtuosité ?
Non, sa virtuosité. Et on voit que aux œuvres qu'il joue maintenant, il joue beaucoup de Bach. Et en dirigeant, je crois qu'il est obligé de limiter son répertoire.
Mais... Et Brendel, vous l'avez...
Alors Brendel, c'est...
C'est aussi un grand intellectuel.
Oh oui ! Très impressionnant, Brendel. Très, très impressionnant. Très impressionnant. Et avec toujours les doigts bandés. Oui. Et on ne lui donnait pas la main. Parce que le contact d'une main aurait pu...
Abîmer
sa main. Il tenait ses mains en vitrine, en quelque sorte. Mais il était très impressionnant. L'entretien, là, est passionnant.
Oui.
Il vole très, très haut, Brendel, dans la réflexion. Et je crois qu'il fait aussi de la peinture. Enfin, et il écrit. Non, c'est quelqu'un d'éminent.
Les chanteurs, vous en avez sélectionné trois. Bon. Pavarotti, c'est...
C'est une évidence. Pavarotti est inédit.
C'est inédit.
D'accord. Pavarotti est inédit.
C'était un personnage...
Il n'est jamais passé, finalement.
...particulier, quand même.
Il n'est jamais passé. Ben oui. Oui. Très particulier à tout point de vue... Une voix merveilleuse, mais un acteur qui ne peut pas jouer à cause de sa corpulence, c'est quand même un peu limité. Il en souffrait d'ailleurs certainement, parce que il aurait voulu chanter Werther. Alors évidemment,
mais quand il est venu la première fois à Paris, il pouvait encore bouger.
Oui. Mais enfin, c'était un peu comme Jesse Norman, des meubles sur la scène.
Mais ça, c'est un peu disparu.
Oui.
Mais ça revient un peu aussi. Il y a quelques Américains
maintenant.
Il y a quelques Américaines
qui sont un peu vastes.
Oui, qui sont très. Ça revient. C'est dommage parce que c'est pas vraiment l'idéal pour un metteur en scène d'opéra. Mais donc lui, il était né en 1935. Donc quand il est venu à l'Opéra de Paris, c'était en 75. Donc il avait 40 ans.
Oui.
Et vous vous rappelez de ces spectacles, c'était vraiment quand même magnifique. Quand il est revenu 15 ans après faire la même mise en scène, il a fallu faire des porte particulière parce qu'il ne pouvait plus monter les escaliers. Imgard Siegfried, c'est une chanteuse peu connue du grand public parce qu'elle a assez peu enregistré, souvent enregistré un peu tard dans sa carrière, mais c'est vrai que ça a été, je pense, une plus belle voix de l'opéra de Vienne, de Munich,
une voix,
de cette époque,
oui,
juste avant-guerre et après-guerre.
Alors, Siegfried, c'est vraiment une affaire d'amour, si je puis dire. La première fois où j'ai entendu un opéra dans ma vie, c'était à Salzbourg en 1947. Je ne sais pas comment j'avais réussi à aller à Salzbourg en 1947, alors que vraiment, je n'avais pas de grands moyens. Enfin, j'y étais. Et à l'époque, le festival se déroulait dans ce qu'on appelait le Manège des Rochers, c'est-à-dire c'était en plein air. Et j'ai vu là la Flûte enchantée, dirigée par Furtwängler, avec Irmgard Siegfried qui chantait Pamina. C'était quelque chose, de toute façon, je crois que c'est la plus grande Pamina de l'opéra. Personne n'a chanté Pamina comme elle. Donc c'était resté un souvenir extraordinaire pour moi. C'était le premier opéra que j'entendais. Et là-dessus, je ne sais pas, 30 ans après, ça doit être 30 ans après, Deutsche Grammophon m'a appelé parce qu'ils éditaient un coffret avec tous les enregistrements. C'était des 33 tours, malheureusement. Tous les enregistrements de Irmgard Siegfried. Et il y a eu aussi Rita Streich, mais je n'ai pas mis Rita Streich. Et on m'a demandé de faire, en quelque sorte, le livret de ce coffret. Alors, je suis allée à Salzbourg voir Irmgard Siegfried. C'est un souvenir absolument merveilleux. Je suis allée à Vienne la voir, plus exactement, chez elle. Nous avons parlé en anglais, je crois. Enfin, bon. Et à la fin de l'entretien, j'ai sorti de mes papiers le programme du festival de Salzbourg de 1947, qui était une sorte de petit bout de papier journal double, avec Furtwängler qui avait signé là. Et je lui ai demandé. Et quand elle a vu ce programme, elle a fondu en larmes, elle s'est jetée dans mes bras. Elle dit « My child, my child !»
Et voilà. Vous l'a signé ?
Et elle l'a signé de l'autre côté. Alors ça, c'est un trésor.
Donc vous l'avez vu juste une fois ?
Non, parce que je l'ai revue chaque fois qu'elle venait à Paris.
Et ces enregistrements ont été réédités en CD tous ?
Non, jamais. Ah si, il y a quelques CD, mais le coffret, non. Alors le coffret est accompagné de cet entretien, qui est ce qu'il y a de plus long dans le livre. Vous avez vu, c'est quand même très très long, qui est un portrait. Et j'ai fait un portrait à partir de l'entretien. Voilà. S'était déroulé en anglais.
Et puis le ténor qui a duré le plus au monde.
Oui. C'était une curiosité. Il était charmant.
C'était charmant. Oui.
Charmant.
Mais il a fait ses débuts au Met à 85 ans, un truc comme ça, non ? C'est
quelque
ça
chose comme ça.
Dans le père de Turandot. Et c'était un chanteur qui a quand même fait une carrière. On disait qu'il n'avait pas de voix.
Le chanteur sans voix, oui.
Ce qui est un peu vrai. Enfin, ce n'était pas la plus belle voix du monde, mais il a fait une carrière exceptionnelle, puisqu'il a à la fois participé aux découvertes des compositeurs baroques et il a travaillé aussi beaucoup avec des compositeurs contemporains, enfin de son époque.
Absolument.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce que vous avez vu de lui ?
Ben, j'ai été le voir en Suisse, chez lui.
En Suisse, au bord du lac Léman.
Du lac Léman, à Vevey. à Vevey. J'en avais profité d'ailleurs pour aller voir Madame Fourdwängler, qui habitait à côté. Et bon, c'était absolument charmant. C'était quelqu'un d'extraordinairement léger, gai, léger. Et oui, le chanteur sans voix, il s'enorgueillissait d'être un chanteur sans voix. Mais il était tellement éloquent avec ses mimiques et il avait un tel don de faire passer la musique sans, au fond, sans beaucoup de voix, que c'était vraiment un grand plaisir. Oui, Cueno, ça a été quelque chose de très agréable. Oui,
il a participé
agréable.
À la création du Rex Progress.
Du Rex Progress, oui, oui.
Il a fait des enregistrements de Monteverdi au début.
On a commencé
à ressortir ses œuvres avec les Boulanger.
Nadia Boulanger. Il était l'élève de Nadia Boulanger.
Et tous ces gens-là, donc tout cet amour pour la musique, avez-vous vous-même pratiqué la musique?
Oui, je le dis dans le livre. Désastreusement.
J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi c'était désastreux.
parce que malheureusement, c'est pas moi qui avais hérité des quelques dons qu'il y avait dans la famille. Et bon, j'ai beaucoup peiné, sans résultat.
Et vous l'avez regretté?
Ah oui, je regrette de ne pas avoir les dons, par exemple, de mon frère aîné. Oui, ça c'est sûr.
Et il a quoi comme don? Un pianiste?
Non. Non, il peut s'asseoir au piano et lire une partition. Bon.
Mais ça, c'est pas forcément un don, c'est du travail aussi.
Mais pas du tout, il n'a jamais travaillé. Moi, j'ai travaillé, pas lui. Non. Mais et lui, il a été, il avait des capacités telles qu'il était dans les chœurs de l'Orchestre de Paris, les chœurs amateurs de l'Orchestre de Paris. Et il a même été au Théâtre des Champs-Élysées, dans la Flûte enchantée. Il était un des...
Des hommes d'armes.
Un des hommes d'armes, parfaitement. Dans la mise en scène de Ponel, qui était si belle.
Donc, et, vous,
lui,
non.
Ben, moi, non.
Vous n'avez pas chanté non plus, pas...
Non, parce que... Non. Je suis pas douée. J'ai beaucoup travaillé, mais sans succès. J'ai quelques pièces à mon répertoire, je l'avais, mais enfin, c'était limité.
Bien. Écoutez, merci à tous et merci à vous, Sophie, d'être venue rencontrer ces lecteurs ou futurs lecteurs.
Merci à vous, Thierry.
C'était un plaisir.